Chapitre 1. Marché tenu. La roue du temps tourne, et les âges naissent et meurent, laissant dans leur sillage des souvenirs destinés à devenir des légendes. Puis les légendes se métamorphosent en mythes, qui sombrent eux-mêmes dans l'oubli, longtemps avant la renaissance de l'âge qui leur donna le jour. Au cœur d'un âge nommé le troisième par certains, une ère encore à venir et depuis longtemps révolue, un vent se mit à souffler au-dessus de la grande île montagneuse nommée Trémalking. Sans être le début, car il n'y a ni commencement ni fin à la rotation de la roue du temps, ce vent était un début. Soufflant vers l'est, il traversait toute l'île où les Amaillards, à la peau claire, fidèles du paradigme de l'eau, s'occupaient de leurs champs, soufflaient un verre magnifique et fabriquaient une superbe porcelaine. Du monde, les Amaillards ignoraient tout, à part l'existence de leur archipel, car le paradigme de l'eau assurait que tout le reste n'était qu'une illusion, l'image reflétée d'un mirage. Pourtant, certains d'entre eux, sentant la chaleur de ce vent chargé de poussière sèche, alors qu'il aurait dû tomber une pluie glaciale en cette saison, se remémoraient les histoires contées par les Ata-Admiré. Des récits au sujet du reste du monde et de ce que prédisaient les prophéties. Certains tournaient alors les yeux vers une colline au sommet de laquelle une main géante en pierre émergeait de la terre, serrant entre ses doigts une sphère de cristal plus grande que bien des maisons. Comme tous les peuples, les Amaillards avaient leurs propres prophéties, certaines parlant de la main, de la sphère et de la fin des illusions. Continuant vers l'est, ce vent traversait la mer des tempêtes, sous un soleil brûlant piqué comme une pierre précieuse dans un ciel sans nuages. Rasant la crête ourlée d'écume des vagues, il triomphait des bourrasques venues du sud et de l'ouest, cette bataille de titans faisant rouler sauvagement les eaux. Rouler, mais pas se déchirer, car on était loin des terribles tempêtes du cœur de l'hiver, alors que celui-ci aurait dû être presque terminé, et encore plus des cyclones de l'été finissant. Cependant, il s'agissait de vents et de courants que les peuples de navigateurs pouvaient utiliser pour caboter autour du continent, allant de bout du monde jusqu'à Mayenne et même au-delà, et en revenant dans la foulée. Toujours vers l'est, ce vent rugissait au-dessus du grand océan moutonnant, d'où de grandes baleines roses émergeaient en chantant au milieu de gros poissons volants aux ailes d'une envergure souvent supérieure à 6 pieds. Encore vers l'est, il virait parfois vers le nord, le nord-est, survolant des flottilles de bateaux de pêche qui avaient jeté leurs filets dans les eaux les moins profondes, à courte distance de la côte. À leur bord, une partie des pêcheurs, bouche bée et poings plaqués sur les hanches, contemplait une armada de grands et de plus petits navires qui fendaient l'onde vent debout, leurs proues brisant les vagues tandis que battait dans leur voilure un pavillon où s'affichait un grand aigle doré dont les serres agrippaient sans crainte la foudre. Une armada dans les innombrables pavillons semblait annoncer au monde l'imminence d'une tempête. Mais le vent, insensible à cet avertissement, filait toujours vers l'est, jusqu'au gigantesque port des Boudards, où mouillaient des centaines de bateaux du peuple de la mer, en attente, comme dans tous les ports, d'un mot du Coramor, à savoir celui que les Ata-Admiré appelaient aussi l'élu. Malmenant les petits navires comme les grands, ce vent balayait la cité elle-même, une vaste étendue blanche brillant sous un soleil de plomb, avec ses minarets, ses dômes aux couleurs vives, ses murailles et ses rues ou ses canaux, grouillant de l'activité habituelle dans les cités du sud. Fondant sur les tours élancées et les dômes étincelants du palais Tarassine, ce vent chargé d'une lourde odeur iodée fouettait l'étendard de l'Altara, deux léopards dorés sur champ d'azur et de gueules, et celui de la maison régnante Mitsobar, reconnaissable à son épée et son ancre sur fond blanc. Pas encore la tempête, mais son messager, aurait-on pu dire. Alors qu'elle précédait ses compagnons, dans les couloirs du palais Tarassine, aux murs revêtus de carreaux présentant toutes les nuances de bleu possibles et imaginables, Avienda sentit comme un picotement entre ses omoplates. L'impression d'être observée, comprit-elle. Celle qu'elle avait éprouvée pour la dernière fois, lorsqu'elle était encore une promise de la lance. « Mon imagination, » songea-t-elle. « Ça, et le fait de savoir qu'il y a partout des ennemis que je ne peux pas affronter. » Peu de temps auparavant, cette sensation signifiait que quelqu'un pouvait avoir l'intention de la tuer. Si la mort n'avait rien de redoutable, après tout, chacun devait y passer un jour ou l'autre, Avienda n'entendait pas crever comme un lapin qui se débat dans un collet, car elle avait encore un taux à honorer. Des serviteurs rasaient les murs, multipliant les révérences et les courbettes et baissant les yeux, comme s'ils avaient conscience de l'insignifiance de leur vie et de la honte dont elle était entachée. Pourtant, ce ne pouvait pas être à cause d'eux que la gueule brûlait d'envie de secouer les épaules, comme pour se débarrasser d'une souillure. Au fil du temps, elle s'était efforcée de s'habituer à voir des domestiques. Mais même en ce jour, avec ses picotements dans le dos, Ses yeux glissaient toujours sur eux. Oui, ce devait être son imagination et ses nerfs. Un jour tout à fait propice à ce genre de choses. À l'inverse des serviteurs, les tapisseries criardes et les lampes dorées murales ou pendant au plafond sautaient aux yeux de Layel. Un peu partout, à côté de beaux objets en or, en ivoire, en argent ou en cristal, des coupes, des vases, des coffrets et des statuettes, de somptueuses pièces de porcelaine rouge, jaune, verte et bleue étaient exposées dans des niches ou de hautes bibliothèques. Parmi ces richesses, seules les plus belles retenaient le regard d'Avienda. Quoi que puissent en penser les gens de terre mouillée, la beauté était bien plus importante que la valeur marchande. Et dans ce palais, on la trouvait en abondance. Le cas échéant, Layel n'aurait pas craché sur sa part du cinquième de cet extraordinaire trésor. Mécontente d'elle-même, Avienda plissa le front. Ce n'était pas une pensée honorable, en un lieu où on lui avait si généreusement offert l'ombre et l'eau. Sans cérémonie, certes, mais aussi sans dette de sang, d'acier ou de nécessité. Cela dit, ne valait-il pas mieux songer à ça plutôt que petit garçon seul quelque part dans cette ville corrompue? Après en avoir visité quatre, au moins en partie, Avienda était convaincue que la corruption gangrenait toutes les cités. Mais Eboudar était la dernière où elle aurait laissé batifoler un gosse. Mais pourquoi pensait-elle à Olver dès qu'elle ne produisait plus un effort délibéré pour le chasser de son esprit? Il n'avait aucun rapport avec le taux qu'elle nourrissait envers Elaine et Randall Thor. La lance d'un chaïdo avait tué le père du gamin, et sa mère était morte de faim et d'épuisement. D'accord, mais même si Avienda avait abattu de ses mains les parents d'Olver, il serait resté un kyrienien, soit un méprisable tueur d'arbres. Pourquoi s'angoissait-elle pour un des rejetons de cette engeance? Oui, pourquoi? Layel tenta de se concentrer sur le tissage qu'elle allait faire. Sous l'œil acéré d'Elaine, elle s'y était entraînée jusqu'à pouvoir le réaliser en dormant. Mais quoi qu'elle fasse, la bouille d'Olver, avec sa bouche démesurée, s'imposait à son esprit. Birgit se rongeait encore plus les sangs qu'elle au sujet du gamin. Mais dans la poitrine de l'archère battait un cœur étrangement sensible au malheur des petits garçons, surtout quand ils étaient d'une laideur hors du commun. Avec un soupir, Avienda renonça à essayer de ne pas entendre la conversation de ses compagnons dans son dos. Tant pis si elle était plus courageuse. Malgré tout, ça valait mieux que de se lamenter sur le sort d'un tueur d'arbres en herbe. Les violeurs de serment. Un sang indigne dont le monde se serait volontiers passé. En quoi le destin de ce gamin la concernait-il? De toute façon, Matt Cotton finirait par le trouver. Il dénichait tout, celui-là. Se concentrer sur le dialogue entre Nineveh Almehara et Lan Mandragoran sembla calmer Avienda. Dans son dos, les picotements disparurent. « Je n'aime pas ça du tout !» marmonna Nineveh, continuant une dispute commencée bien plus tôt dans sa chambre. « Pas du tout, Lan, tu m'entends ?» C'était la 20e fois qu'elle répétait ça. Mais l'ancienne sage-dame n'était pas du genre à rendre les armes sous le prétexte fallacieux qu'elle avait perdu la bataille. Petite, les yeux noirs, elle marchait à grands pas, brutalisant sa jupe-culotte, une de ses mains se levant d'instinct vers sa natte afin de tirer dessus, mais retombant le long de son flanc dès qu'elle s'en apercevait. Quand Lan était là, Nineveh contrôlait son détestable caractère. Du moins, elle essayait. Avoir épousé cet homme l'emplissait d'une fierté sortant de l'ordinaire. Sur sa jupe, elle portait une veste bleue serrée ouverte, qui dévoilait bien trop sa poitrine, selon la mode en vigueur dans les terres mouillées. Mais c'était probablement pour mieux exhiber la chevalière d'or qui pendait à son cou au bout d'une chaîne.
« Lan Mandragoran, tu n'as aucun droit de promettre ainsi que tu prendras soin de moi. Je ne suis pas un bibelot en porcelaine. »
Sa cape caméléon battant dans son dos, Lan, un homme de haute taille, comme il convenait pour un mâle aux yeux d'une Nayel, marchait placidement aux côtés de sa femme. Le visage de pierre, il foudroyait du regard tous les domestiques, comme s'il s'était agi de tueurs à gages potentiels. Sondant tous les couloirs latéraux et toutes les alcôves, il était prêt à bondir à tout instant, tel un lion en chasse. Si elle avait grandi parmi des hommes dangereux, Avienda n'en avait jamais connu qui le fût autant qu'à Annalein. Si la mort avait voulu s'incarner dans un homme, nul doute qu'elle l'aurait choisi.
« Tu es une Aes Sedai et moi un champion », rappela Lan d'un ton égal. « Veiller sur toi est mon devoir. »
Il passa à un ton plus doux, peu en harmonie avec son expression de statue et son regard de glace.
« De plus, veiller sur toi est mon plus cher désir, Nineveh. Tu peux me demander n'importe quoi, sauf de te laisser mourir sans tenter de te sauver, parce que le jour où tu quitteras ce monde, je l'abandonnerai aussi. »
Des paroles inédites, du moins en présence d'Avienda. Comme si elle venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac, Nineveh en eut le souffle coupé. Bouche bée,
Elle tenta en vain de parler, mais comme d'habitude, elle se ressaisit très vite. Faisant mine d'ajuster son chapeau à plumes, un accessoire ridicule, donnant l'impression qu'un oiseau était perché sur sa tête, elle coula un regard en coin à son mari. À force de la fréquenter, Avienda était venue à postuler que Nineveh recourait au silence et au regard lourd de signification quand elle ne savait pas quoi dire. Au sujet des hommes, aurait parié la Yel, elle en savait encore moins long qu'elle. Et si affronter les mâles avec un couteau ou des lances n'avait rien de compliqué, en aimer un était une toute autre affaire, sacrément plus complexe. Comment se débrouillaient donc les épouses ? Avienda avait un besoin urgent de l'apprendre, et pas la moindre idée sur la façon de procéder. Mariée à Ahnalein depuis un jour, Nineveh avait radicalement changé, la volonté de contrôler ses nerfs n'étant qu'une goutte d'eau dans un océan. Même si elle s'efforçait de le cacher, elle semblait en permanence déchirée entre la stupéfaction et l'hébétude, comme si elle ne parvenait pas à s'habituer à la réalité. S'immergeant dans ses pensées aux moments les plus incongrus, elle rougissait face à des questions anodines et, même si elle le niait farouchement, gloussait bêtement pour un oui ou pour un non. À première vue, il n'y avait rien à apprendre de cette femme.
« Je suppose que tu vas aussi me tenir un serment sur les Aes Sedai et les champions ?»
dit Elaine à Birgit d'un ton peu amène.
« Mais contrairement à ces deux-là, nous ne sommes pas mariés. J'attends de toi que tu protèges mes arrières, pas que tu fasses des promesses dans mon dos. »
Elaine portait une tenue aussi inadaptée à la situation que celle de Nineveh. Une robe d'équitation en soie verte brodée de fils d'or, un modèle local, avec un col montant, un point plutôt positif, mais un ovale ajouré sur le devant qui dévoilait un peu plus que la naissance des seins de la fille héritière. Quand ils entendaient parler des tentes bains de vapeur ou des aïels qui se promenaient nus devant des geishines, les gens des terres mouillées manquaient à s'étrangler d'indignation. Ensuite, ils s'exhibaient dans des tenues vraiment indécentes. En ce qui concernait Avienda, Nineveh pouvait faire ce qu'elle voulait. En revanche, Elaine était sa presque sœur. Et bientôt, espérait-elle, leur lien serait encore plus intime. Grâce au talon de ses bottes, Birgit dépassait Nineveh d'une bonne tête. Cela dit, elle restait plus petite qu'Elaine ou Avienda. Vêtue d'une veste bleue sombre et d'un pantalon vert, elle avançait avec le même genre de souplesse féline que l'âne, mais tout en gardant plus de décontraction que lui. Une panthère couchait sur un rocher, mais beaucoup moins nonchalante qu'elle le laissait paraître. Aucune flèche n'était encochée dans son arc, mais s'il le fallait, elle en sortirait une de son carquois en un clin d'œil, la décochant, ainsi qu'une deuxième et une troisième, avant que n'importe quel archer commençait à armer son arc pour la deuxième fois. L'archère gratifia Elaine d'un sourire glacial, puis elle secoua la tête, faisant osciller dans son dos sa natte blonde.
« J'ai promis devant toi, pas dans ton dos, »
lâcha-t-elle.
« Quand tu seras un peu mieux formé, je ne serai plus obligé de t'apprendre des choses sur les Aes Sedai et les champions. »
Elaine pointa dédaigneusement le menton, puis elle fit mine de s'intéresser au ruban de son chapeau à plumes vertes, un modèle encore plus ridicule que celui de Nineveh.
« Peut-être faudra-t-il que tu sois beaucoup mieux formé, »
ajouta Birgit.
« Et fais donc un autre nœud à ce fichu ruban. »
Si Elaine n'avait pas été sa presque sœur, Avienda aurait éclaté de rire, en la voyant s'empourprer jusqu'à la racine des cheveux. Faire un croc en jambe à quelqu'un qui se croit plus haut que les autres était toujours amusant. Et regarder une autre personne le faire aussi. Après tout, voir quelqu'un tomber avait immanquablement quelque chose de drôle, même quand la personne ne chutait pas de très haut. Les choses étant ce qu'elles étaient, Avienda arriva un regard furibond sur Birgit, histoire de l'inciter à ne pas aller trop loin. Elle aimait l'archère, malgré le tombereau de secrets qu'elle cachait. Mais il y avait, entre une amie et une presque sœur, une différence que les gens des terres mouillées ne semblaient pas capables de comprendre. Birgit se contenta de sourire, en regardant alternativement la fille héritière et la Yel. Puis elle lâcha quelques mots entre ses dents. Avienda saisit le mot « minette », sur un ton affectueux en plus de tout. Et tout le monde devait avoir entendu. Oui, tout le monde.
« Quelle mouche t'a piqué, Avienda ?»
demanda Nineveh, en tapant de l'index sur l'épaule de la Yel.
Tu comptes rester toute ta journée plantée ici ? À rougir comme une pivoine ? Nous sommes pressés, au cas où tu l'aurais oublié. »
À la chaleur de ses joues, Avienda s'avisa alors qu'elle devait être aussi écarlate qu'Elaine, et pétrifiée sur place, alors que le petit groupe n'avait pas de temps à perdre. Désarmée par un mot, comme une fille qui vient juste de s'unir à la lance, et choquée par les plaisanteries un peu lestes des promises. À près de 20 ans, elle se comportait comme une gamine qui joue avec son premier arc. Cette constatation enflamma encore plus ses joues. Du coup, elle se remit en marche, négocia l'intersection suivante au pas de charge, et faillit percuter Tessine Baradon. S'arrêtant trop brusquement, Laiel glissa sur les carreaux rouges et verts du sol, bascula en arrière et dut se rattraper à Elaine et à Nineveh. Miraculeusement, elle parvint à ne pas s'empourprer de honte. Pourtant, cette fois, ça aurait été justifié. De plus, elle mettait sa presque sœur dans l'embarras, tout autant qu'elle. Heureusement, la fille héritière ne perdait jamais son calme et sa dignité. Par bonheur, Tesline Baradon ne surréagit pas à cette quasi-collision. Elle sursauta de surprise, ne put empêcher sa bouche de béer, mais se ressaisit très vite et haussa les épaules avec un agacement visible. Ses joues creuses et son nez décharné, la privant de presque tout le bénéfice de l'intemporalité propre aux Aes Sedai, la sœur rouge portait une robe carmin foncé brodée de fils sombres qui n'arrangeait pas sa silhouette déjà ratatinée. Cela dit, elle avait récupéré en un clin d'œil toute l'équanimité d'une maîtresse du toit. Ses yeux sombres, aussi impavides qu'inquiétants, ne s'arrêtèrent pas sur Avienda, dédaignèrent l'âne, comme s'il était un outil dont il n'avait pas l'utilité pour l'instant, mais se fixèrent un moment sur Birgit, avec une franche hostilité. La majorité des Aes Sedai désapprouvait le choix d'Elaine. Une championne, quelle idée! Pourtant, à part un respect étriqué des traditions, rien ne justifiait cette attitude. La sœur rouge, en revanche, dévisagea longuement Elaine et Nineveh, sans rien laisser transparaître de ce qu'elle pensait, bien entendu. Pour Avienda, il aurait été plus facile d'attraper le vent de la veille que d'interpréter les expressions de Tesline Baradon.
« Je l'ai déjà dit à Myrilil, »
fit-elle avec son épais accent ilianien.
« Mais autant vous rassurer aussi. Quoi que vous ayez mijoté, Jolene et moi, nous n'interviendrons pas. Je m'en suis assuré. Et si vous êtes prudente, Elaïda ne saura jamais rien de vos manigances. Allons, cessez de me regarder avec des yeux ronds. Je ne suis ni sourde ni aveugle. Je sais que des régentes des vents sont venues au palais et qu'il y a eu des rendez-vous secrets avec la reine Tagline, sans compter le reste. »
Tesline Baradon fit la moue. Son ton resta égal, mais un éclair rageur passa dans son regard.
« Pour ce reste, vous paierez un prix très élevé, vous et toutes celles qui osent se faire passer pour des Aes Sedai. Et pour l'instant, je fermerai les yeux. Le châtiment peut attendre. »